Chapitre 8, Décision. À bord de l'étoile polaire, l'affolement et le désespoir étaient à leur comble. Hürselström et Göll-Morlax, incapables de prononcer une parole, se serraient les mains en pleurant. Le capitaine de Noirtier avait fait mettre à la mer toutes les embarcations, la chaloupe, le canot et la yole. Les matelots, munis de torches et de gaffes, explorèrent la mer dans un large rayon autour du yacht. Sur une idée de M. Lepic, Hürselström fit installer de puissants fanaux électriques qui furent hissés en tête du grand mât et d'aveuglants et gigantesques faisceaux de lumière blanche fouillèrent jusqu'au dernier recoin de l'horizon. Au bout d'une heure et demie de travaux, il fallut bien se résoudre à convenir que tout cela était inutile. M. de Noirtier et M. Lepic, qui seuls avaient conservé un peu de sang-froid, supposaient qu'Edda avait dû tomber à la mer accidentellement et que Cocardo s'était précipité à son secours et que tous deux avaient coulé à fond. Cependant, cette façon de voir ne put tenir devant le témoignage des marins qui avaient entendu les cris désespérés du cuisinier et qui avaient vu ses adversaires le précipiter à la mer. Les événements demeuraient enveloppés de mystère. M. Lepic et Mlle Seguy essayaient vainement de consoler Hürselström et Göll. Le père et le fiancé d'Edda, unis dans une même douleur, continuaient à pleurer silencieusement. Ce fut Hürselström qui reprit le premier tout son sang-froid. Il se leva brusquement, les poings serrés, la face effrayante de colère contenue et de sombre énergie. Ses yeux verts étincelaient et semblaient phosphorer dans la nuit. « Je retrouverai ma fille, » s'écria-t-il, « je dépenserai, s'il le faut pour cela, mes inutiles millions. Ah, que ne suis-je encore le pauvre aventurier de jadis, sans autre fortune que mes bras et mon cerveau. Ah, ma chère Edda, es-tu toujours vivante ?» La résolution d'Hürselström fut d'un heureux effet sur l'abattement de Göll. « Nous retrouverons Edda, » s'écria-t-il à son tour, « elle n'est pas morte. » Elle ne peut être morte. Peut-être suis-je sur le point d'avoir la clé du mystère. » Le capitaine de Noirtier, M. Lepic et Mlle Seguy regardèrent Göll avec surprise, avec pitié. Ils crurent que la douleur le faisait divaguer. Seul Hürselström portait attention à ses paroles. Et Göll continua. Et d'abord, la première chose à faire, c'est de télégraphier immédiatement à la Girolata pour activer l'achèvement du Jules Verne. « Mais pourquoi faire ?» demanda M. Lepic. « Oh, je comprends, oui, cela suffit, » répliqua Hürselström. Göll s'était précipité vers le récepteur du télégraphe sans fil, installé près de la roue du timonier. Hürselström fit fonctionner les manipulateurs. Ce fut en vain. « Il y a un accident, une interruption du courant ?» demanda Mlle Seguy. « Mais il y a peut-être autre chose, » répondit M. Lepic. Hürselström et Göll s'étaient regardés. Tous deux venaient d'avoir la même pensée. « Il y a certainement corrélation, » murmura Göll, « entre l'enlèvement d'Edda et l'interruption du courant. C'est possible. » « Je comprends votre idée, » répondit Hürselström à voix basse. Et, se retournant vers le capitaine de Noirtier, « Qu'on vire de bord tout de suite, » ordonna-t-il, « qu'on pousse les feux et qu'on fasse route vers le Cap Corse, avec le maximum de vitesse. » Les ordres furent immédiatement exécutés. La vapeur à haute pression fusa dans les tiroirs, s'engouffra dans les cylindres des pistons et l'étoile polaire, virant cap pour cap, fit route vers la Corse. Une demi-heure s'était à peine écoulée que les cimes bleuâtres de l'île de Monte Cristo furent signalées. Hürselström et Göll s'entretenaient à voix basse sur le pont lorsque tout à coup la sonnerie de l'appareil de TSF retentit énergiquement. Mais vous voyez, fit triomphalement M. Lepic, le courant est rétabli. C'était un accident. Nous allons bien savoir quelque chose, grommela Ursenström. Le ruban de papier bleu pâle se déroula. Goël lut au milieu de l'anxiété générale. Le Jules Verne a été enlevé par les bandits. Hier matin, environ une heure après que je vous eus télégraphié des nouvelles rassurantes, une troupe d'hommes en armes est sortie du maquis, a mis le feu aux magasins et aux ateliers, s'est élancée sur les travailleurs qui ont été presque tous grièvement blessés. À ma grande indignation, j'ai reconnu parmi les assaillants un certain nombre d'ouvriers américains naguère employés dans nos ateliers. Le mécanicien Robert Knipp paraissait être à leur tête. « Des Américains, Robert Knipp ?» s'écria Goël. « Oh, je comprends tout maintenant. Le ravisseur d'Edda, le voleur du Jules Verne, ne peut être que Tony Fowler. Le mystère de cette nuit s'explique. Ce n'est qu'à l'aide de notre sous-marin que les misérables ont pu disparaître si rapidement. « Ah, je suis de l'avis de Goël, » répliqua M. Lepic. « Mais quel est ce Tony Fowler ?» demanda Ursenström, le visage contracté par la fureur, les poings serrés. Ce fut Mademoiselle Seigi qui répondit. « Mais Monsieur Ström, vous le connaissez, ce Tony Fowler ? C'est un des concurrents évincés, un jeune Américain milliardaire. Il avait même réussi à se faire présenter à vous et à Edda, qui ne pouvait pas le souffrir. » Oh, c'était un des anciens camarades de Goël, ajouta M. Lepic, et Goël lui avait sauvé la vie. Oui, oui, c'est vrai, il voulait se suicider parce que ses plans n'avaient pas été primés au concours. Je l'en ai empêché, et depuis, il m'a voué une haine mortelle. Et si vous lui avez sauvé la vie, il ne peut en être autrement, fit amèrement Ursenström. Oh, je me souviens en effet maintenant de ce Tony Fowler. Les plans qu'il nous avait présentés étaient parfaits dans le détail, mais ne concordaient pas pour l'ensemble. Il était facile de voir qu'ils étaient dus à un grand nombre de collaborateurs. Cependant, le ruban de papier bleu continuait à se dérouler. On lut le reste de la dépêche. Pierre Auger expliquait comment il avait été fait prisonnier. Blessé, il avait été emmené dans le maquis et attaché au tronc d'un châtaignier. Délivré par des paysans, il avait trouvé à son retour au golfe de la Chirolata le Jules Verne disparu, les ateliers en ruine, les travailleurs blessés ou en fuite. Heureusement, la cabine de la TSF avait échappé aux pillards. Il s'empressait d'apprendre à M. Ursenström la fatale nouvelle. Tout le monde était atterré. Il fallait au plus vite se mettre à la recherche du sous-marin. Pendant que l'étoile polaire regagnait à toute vitesse la Girolata, les passagers tenaient conseil. Il importait tout d'abord de reconstruire un nouveau sous-marin plus rapide que celui qui venait d'être si audacieusement volé par Tony Fowler. De plus, Ursenström voulait retrouver, si c'était possible, le corps de l'infortuné Coccardo que les matelots de car affirmaient avoir vu tomber à la mer. Il fut décidé à ce sujet que M. de Noirtier reviendrait sur le lieu de la catastrophe et explorerait à l'aide de sondes le fond de la mer à cet endroit dont le point avait été exactement relevé. Dès l'arrivée, on s'occupa de soigner les blessés pendant que M. de Noirtier repartait pour aller accomplir la mission qui lui avait été confiée. Mademoiselle Seigi, devenue infirmière, ne quittait plus ses malades. M. Lepic passait ses journées en compagnie d'Ursenström et de Goël à rédiger des notes aux journaux pour annoncer à l'univers entier le crime sans précédent commis par l'Américain. Des primes considérables étaient offertes à quiconque pourrait fournir le moindre renseignement sur le sous-marin. On avait appris par le maître de chantier Pierre Auger que l'approvisionnement du Jules Verne n'était pas terminé et que la soute aux vivres serait bientôt vide. Il fallait à tout prix empêcher Tony Folwer de se ravitailler. On télégraphia dans tous les grands ports de la Méditerranée et le signalement de Tony Folwer et de Robert Knipp fut envoyé au syndic, au chef de port, à la police maritime, jusque dans les plus petites bourgades du littoral, ainsi que leurs photographies qu'on avait réussi à se procurer. Dès le retour de M. de Noirtier, on devait se mettre en campagne. Celui-ci ne tarda pas à arriver, mais il n'apportait aucune nouvelle du cuisinier Coquardeau. Son cadavre avait dû être entraîné au large par les courants. Il était sans doute devenu la proie des crustacés et des squales. M. de Noirtier avait essayé de prendre des photographies du fond de la mer, mais la catastrophe avait eu lieu à la surface d'un abîme de plus de 1000 mètres au-dessus duquel il était difficile d'opérer. Toutes les recherches demeurèrent également infructueuses. Des semaines se passèrent et aucun navire, aucun sémaphore ne signala la présence du Jules Verne. Hirselström et Goël commençaient à retomber dans le désespoir. La coque de l'autre sous-marin, le Jules Verne II, improvisée pour ainsi dire à coups de billets de banque, en quelques semaines s'allongeait déjà sur les chantiers. Quant à M. de Noirtier, il avait embarqué à bord de l'Étoile polaire une collection de bouées automatiques à microphone, d'avertisseurs torpilles électriques, et il croisait à l'entrée du détroit de Gibraltar. L'équipage avait été doublé et l'on veillait sans relâche à bord du yacht. Il fallait à tout prix empêcher Tony Folwer de passer de la Méditerranée dans l'Atlantique avant l'achèvement du second sous-marin auquel deux équipes d'ouvriers travaillaient nuit et jour en se relayant. Quand ils auraient à leur disposition le Jules Verne II, Hirselström et Goël comptaient bien donner la chasse aux pirates et lui arracher sa proie.